想。
哎呀呀！
哎
！Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille.
哎。
Et ça me fait mal quand j'enfonce mon doigt.
Aïe !
Sois sage, ô ma douleur. Une émission proposée par le professeur Robert, neurochirurgien,
aïe,
le docteur Ryu, anesthésiste, réanimateur et algologue,
aïe,
et Pascal Massiot, journaliste.
Aïe !
La douleur sous toutes ses coutures, sous toutes ses sutures.
La douleur, c'est une expérience qui est à la fois sensitive, sensorielle, mais c'est aussi une expérience émotionnelle.
Témoignages, décryptages, reportages, chaque deuxième mercredi du mois à 18h sur Jet FM.
Fais-moi mal, John.
Sois sage, ô ma douleur.
Ma douleur, donne-moi la main. Viens par ici.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Jet FM, Sois sage ma douleur. Eh bien, la mensuelle dédiée à la douleur, comme son nom l'indique, sous toutes ses sutures ou sous toutes ses coutures, avec deux médecins. Je salue Roger Robert, le professeur Roger Robert dans ce studio. Bonjour Roger.
Bonjour.
Est-ce que tout va bien ?
Tout va parfaitement bien en cette reprise en somme.
C'est la rentrée ?
Absolument.
Pas de cartable dans le dos ?
Pas encore.
Pas encore.
Pas de maîtresse.
C'est vrai. Bruno Rioux, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue pour cette nouvelle saison également, Bruno. On a fait 10 émissions l'an dernier. Tout va bien, l'été a été bon, l'énergie est reconstituée.
Oui, tout à fait. Après des périodes un peu difficiles, tout va bien.
Oui, le confinement notamment. On a fait une émission d'ailleurs, dans vos locaux d'ailleurs, dans votre bureau.
C'est ça, ouais.
Voilà. Bruno Rioux, donc algologue, c'est-à-dire spécialiste de la douleur. Et puis anesthésiste, réanimateur, parce qu'il faut bien réveiller les gens quand on les a endormis. Et, professeur Roger Robert, neurochirurgien, professeur d'anatomie pour les présentations, ça va ? Ça n'a pas bougé ?
Non. C'est immuable.
C'est immuable. Et puis à la réalisation, et je le remercie, c'est Hippolyte Gaud, c'est lui qui tient les manettes de cette émission. Alors, je disais l'an dernier, une dizaine d'émissions. On avait terminé d'ailleurs par une émission dédiée à la douleur animale, douleur et animale, avec un vétérinaire, Jacques-Yves Deschamps. L'année dernière, on avait décliné plusieurs thèmes. Bien, douleur et confinement, j'en parlais à l'instant. Douleur et neurostimulation, etc., etc. Mais on est reparti pour un cycle de 10 émissions. Alors, on va jeter peut-être un regard, on va révéler le thème de la présente émission, mais on va parler de douleur et hypnose. On reviendra sur la douleur infligée à l'animal, parce que c'est un thème qui mérite au moins une deuxième émission. Tiens, une douleur que connaît bien le professeur Robert, la douleur pelvi-périnéale, avec une histoire nantaise assez... voilà, qu'on a envie de mettre en lumière, et ça sera l'émission du 3 mars prochain.
Oui, on ajoutera quelque chose à la bisuiterie nantaise.
Voilà, c'est ça. Douleur et cancer, on en parlera, mais aussi on déclinera la question de la douleur, douleur à récréation, douleur et cinéma, etc., etc. Là aussi, je ne vais pas faire le catalogue, ça serait un petit peu embêtant. Le thème aujourd'hui qu'on a retenu, c'est douleur et cannabis. Alors, on va voir comment la douleur peut dialoguer avec le cannabis, comment le cannabis peut ou non atténuer, faire disparaître la douleur, c'est ce qu'on verra. Puis, dans une deuxième partie de l'émission, et je me tourne vers Bruno, eh bien, une revue de presse, revue de certains articles d'actualité sur la question de la douleur. Bien sûr, il y avait vraiment des parutions régulièrement hein, dans les quotidiens du médecin, autres publications.
Oui, il y a une revue de la littérature qui est toujours assez riche. En même temps, nous allons voir que c'est toujours les mêmes thèmes qui sont actuellement nécessaires à partager.
Alors, je vais, comme on dit, introduire le sujet. Alors, je me suis basé pour l'introduction que je vais vous proposer sur le site de l'International Association for the Study of Pain, l'Association internationale pour l'étude de la douleur. Vous m'avez dit, Bruno, que j'avais de bonnes lectures.
Oui, c'est l'association de référence et qui travaille beaucoup, tant au niveau de la recherche que pour des sujets parfois plus sociétaux, mais qui regroupe l'ensemble des associations et sociétés nationales de, je crois, 150, 200 pays, avec plus ou moins de représentants, mais ils organisent jusqu'à maintenant un congrès mondial annuel qui est toujours extrêmement riche.
Alors, de cannabis, on va parler. Cannabis médical ou thérapeutique, je trouve que c'est un synonyme. Hein. Alors, justement, en me basant largement, mais pas que, hein, sur le site de cette association, la IASP, j'ai appris que le cannabis était la troisième drogue la plus utilisée globalement après l'alcool et le tabac, c'est considérable quand même. Il y a quelques pays qui ont dépénalisé la détention du cannabis, on pense aux Pays-Bas bien sûr, voilà, le Portugal également, et puis aux États-Unis aussi, du côté du Colorado, de Washington, et puis l'Uruguay, pour ce qui concerne l'Amérique du Sud, eh bien, ils ont là fait bouger leur législation pour légaliser ou réguler le cannabis, alors à des fins de loisirs, là, pas à des fins thérapeutiques. On peut dire qu'il y a une sorte, pas d'âge d'or, mais en tout cas, on s'est beaucoup intéressé, là, je parle sous votre contrôle, au cannabis comme avec son potentiel médical à la fin du 19e siècle, et c'est ensuite tombé en désuétude, plus pour des recherches de médicaments de synthèse, on peut dire ça, Roger Robert, là-dessus?
Oui, il était classique de l'utiliser en Angleterre, notamment. Et puis, petit à petit, il a été oublié. Alors, pour des raisons qui apparaissent obscures, est-ce que c'était des contre-effets? Est-ce que c'était justement des prises assez incontrôlées ou incontrôlables d'un produit qui est d'abord une plante naturelle, comme sont la plupart des médicaments au départ, c'est-à-dire... C'est très bien que la pharmacopée est fondée sur, en fait, la botanique. Mais il est probable que la prise inconsidérée de ces produits, en termes de médicaments, a pu induire d'autres pathologies. Et finalement, ce produit, qui est un médicament, est également une drogue. Il y a certainement eu des problèmes de dépendance ou autre. Toujours est-il que ça a été abandonné, probablement aussi avec... mais Bruno nous en parlera tout à l'heure, avec l'introduction ou la réintroduction, là encore, de la morphine à visée thérapeutique, avec des risques également de... On fera peut-être un parallèle là-dessus, ou un antiparallélisme d'ailleurs, mais à mon avis, il y aura tout au moins un phénomène sociétal de convergence entre l'utilisation des deux.
C'est une date importante parce que c'est là qu'on découvre le THC. Alors, moi je le dis avec mes mots, c'est le principe actif, c'est ce qui fait planer quand on fume un joint.
C'est une des molécules, oui, qui peut entraîner les effets psychodysleptiques, pour utiliser un terme psychopharmacologique.
Sinon, on parle de CBD ? C'est autre chose ?
Le CBD, c'est autre chose. C'est l'autre molécule, mais c'est elle qui est la plus médicale. Et qui a des vertus antalgiques plus que le THC.
En 64, c'est des scientifiques israéliens, ai-je vu, hein, qui ont pour nom Meshulam et Gaouni, qui ont identifié le delta-tétrahydrocannabinol. Voilà. On peut dire quand même que le cannabis, c'est quand même un marqueur d'une contre-culture dans les sociétés occidentales. Ça, c'est, il n'y a pas photo là-dessus. Roger, qui a connu les années psychédéliques, peut nous confirmer ?
Oh, en tous les cas, c'est une déferlante qui vient d'un peu partout. Et je pense que ça s'est répandu plus vite que la peste dans certains milieux. Ça continue à se répandre. Je pense que globalement, il va falloir raison garder en cette matière. Il y a effectivement deux molécules, deux utilisations complètement différentes. Notre propos, là, ne sera pas de parler du THC, qui est... parfaitement illégal, qui est jugé comme un stupéfiant, alors que le CBD a, comme le disait Bruno, une option d'emblée thérapeutique. Cependant, il faudra mettre tout le monde en garde, puisqu'il y a des applications potentielles ou annoncées comme telles, y compris par le THC, pour des applications cliniques à visée thérapeutique. En fait, comme là-dessous, il ne faut pas se tromper non plus, il y a une question financière. Il est certain que chacun veut placer ses finances là où il y aura des utilisateurs en masse. Et je pense que notre devoir à nous, médecins, c'est d'informer les utilisateurs. Et on est ici, dans ce studio, pour ça.
On parlera peut-être du CBD dans notre conversation, on en trouve dans le commerce.
Tout à fait, oui. Avant de venir ici, oui, je me suis amusé à aller sur un site qui s'appelle Just Bob. J-U-S-T-B-O-B, Vous allez là-dessus et vous voyez du CBD en ligne. Je peux vous annoncer les tarifs, 12 grammes, 90 euros. Mmh. Alors avec une présentation qui est soit en gouttes, soit en, je ne sais plus, en bonbons divers et variés. Alors je ne sais pas combien il faut pour soigner ça, mais globalement, je pense que le prix est déjà un petit peu déconcertant dans cette période douloureuse sur le plan financier pour la plupart de nos concitoyens.
Là, on est dans le cannabis loisir détente, et absolument loin du médical, du coup, là. Hein. Il n'y a pas de prescription, il n'y a pas d'ordonnance.
Je pense qu'ils font feu de tout bois, et, ce qui est, et ils vont essayer de toucher les malades que nous sommes tous potentiellement. Quoi.
Un certain nombre de nos patients sont déjà à se fournir en CBD par Internet ou en Belgique. La difficulté, c'est les dosages, c'est... que fait-on lorsqu'on prend, je ne sais pas, 1 gramme, 3 grammes il y a vraiment besoin que les études soient menées pour évaluer la posologie. Pour le moment, on a une telle variation dans les posologies qu'on a vraiment du mal à savoir de quoi on parle quand on prescrit le CBD. Et là, ce qui est vendu sur Internet est de toute façon en dessous du seuil de pénal.
C'est 0,2% de ça, de la molécule
de THC.
De THC. Voilà. Alors, en France, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, le cannabis médical, il n'est pas autorisé, mais il y a une expérimentation qui va avoir lieu bientôt, Bruno.
Alors, il y a déjà des expérimentations. Il y a déjà, jusqu'à maintenant, des possibilités avec, en se rapprochant de la pharmacie centrale des hôpitaux, du cannabis médical, le marinol, qui est prescrit après évaluation, et on reviendra dessus, des certains types de douleurs, où nous avons des patients que nous suivons conjointement avec le CHU qui sont sous cannabis. Je voudrais revenir sur le fait que le cannabis médical, là, on paye un peu effectivement l'effet contre-culture. Il y a une très très grande confusion entre, et une fois de plus, morale et médecine. Là, on juge le cannabis, on a peur d'une certaine toxicité. Tout ça, c'est un grand mélange. Maintenant, on connaît les molécules. Il y a besoin que l'on travaille de la manière dont... pour toute autre molécule, c'est-à-dire avec des études sérieuses, des études qui sont diligentées par l'Agence nationale du médicament, et c'est ce que nous attendons avec beaucoup d'impatience, et on est loin des représentations qu'on peut avoir du cannabis au moment de cette contre-révolution culturelle.
Alors cette expérimentation à laquelle je faisais référence, elle était programmée pour septembre, là, évidemment, le confinement, la crise sanitaire, la petite bestiole a contraint les choses. Elle est reportée en janvier 2021, elle va durer 2 ans. D'après les infos que j'ai, 3000 personnes hein, environ, c'est les chiffres que vous avez, Roger, vont être concernés par cette étude?
Alors, je ne suis pas spécialiste de cette affaire-là, mais j'ai consulté également des dossiers qui regrettent. Alors, d'une part, ça devait être en route maintenant. Évidemment, la Covid fait que tout est repoussé, ce qui n'arrange pas le problème. Mais il faut savoir cependant que, en tous les cas, à ma connaissance, il n'y a pas eu de décret signé en faveur de cette expérimentation dans l'immédiat. Pas de décret, donc pas d'argent alloué non plus à cette recherche. Toute recherche a un coût, ne serait-ce que l'exploitation. La programmation se fait sur 3000 cas. 3000 cas, c'est pas beaucoup pour une étude qui va concerner ensuite des millions d'indications.
Il aurait fallu combien de cas, Roger?
Alors, ça appartient aux statisticiens, mais 3000 cas, si on se base sur des études qui ont été faites dans d'autres pays, notamment dans certains États américains, c'est 10 fois moins que ce qu'il faudrait. Et puis, seulement sur 5 indications pathologiques, alors que les indications pourraient être multiples. Cela dit, les indications, et si vous le permettez, je vais avancer dans cette thématique-là, les indications actuellement balancées dans la presse, elles sont là pour attirer le client, si je puis dire. Et je voyais tout à l'heure un article qui comparait le THC et le CBD, c'est-à-dire le principe euphorisant et celui qui est plutôt médicamenteux. Il y a une liste de maladies qui est annexée à chacun de ces produits, à chacune de ces molécules. Je me mets à la place d'un patient qui ne connaît pas la médecine. Je vais dans la rubrique THC, donc le produit interdit, et je vois qu'il serait là pour traiter les douleurs, vaste programme, les nausées, les apnées du sommeil, le stress, les conséquences de la chimiothérapie anticancéreuse, la sclérose en plaques, sans en préciser la thématique, le glaucome, le sida, pas moins, etc. Eh bien, si j'ai l'une de ces pathologies, je dirais, bah, tenez, je vais prendre ça, moi. Et si je vais dans le CBD, je vois, à lui, c'est différent. L'inflammation, à tous les rhumatisants vont être intéressés. Le stress, la dépression, tous les cancers, l'épilepsie, le stress, la schizophrénie, les migraines, pas moins que ça non plus. Alors, bah, si j'ai l'une de ces pathologies, je vais aller là-dedans. Donc, nous sommes ici pour mettre de l'ordre. Cette liste est une aberration. Les deux listes sont des aberrations. Il va falloir raisonner en sachant que le cannabis, ce n'est pas le nouveau médicament qui arrive sur le marché. Il y a des milliers de médicaments utiles. Il n'y en a probablement pas des milliers qui sont absolument fondamentaux. Mais lui n'est qu'un adjuvant quand le reste a échoué actuellement. Et c'est ce qu'il faut se dire, et non pas inonder les patients de promesses. Il faut en tout cas prévenir les gens que ça n'est pas la panacée. Mmh. Et que ça n'est pas en fumant un joint ou en le prenant en chewing-gum, en goutte, en pommade locale, en onguent et tout ce qu'on veut, que l'on va changer quoi que ce soit à des douleurs qui actuellement ont du mal à être vécues. On parlera avec Bruno tout à l'heure de la douleur neuropathique, qui est une des plus dures à traiter. On en a déjà parlé ici avec les antiépileptiques, avec les antidépresseurs, qui sont des médicaments, j'allais dire, détournés à cette fin, parce qu'on s'est aperçu qu'ils jouaient un rôle contre la douleur. Donc ne mettons pas le cannabis comme le chevalier servant de la douleur neuropathique dès le début. Quoi. C'est pas comme ça qu'il faut... C'est pas la panacée.
Bruno Rioux, si le cannabis n'est pas la panacée, est-ce qu'il peut venir, s'il ne remplace pas un traitement, est-ce qu'il peut venir en complément d'un traitement et là, avoir une dimension efficace ou efficiente?
Probablement. C'est effectivement dans les différents types de douleurs, dont la douleur neuropathique relativement chronique, hein, on est dans des phénomènes où il y a besoin parfois d'associer des médicaments, il y a besoin d'associer des médicaments et des stratégies non médicamenteuses, on reviendra dessus aussi. Et oui, la molécule peut avoir sa place grâce à, je dirais, à la pharmacologie. Nous essayons de cibler les un ou deux récepteurs cannabinoïdes qui vont nous intéresser dans la régulation de la douleur. Je pense que dans l'avenir, ça serait vraiment très bien qu'on la nomme différemment, cette molécule, que de l'attacher au cannabis. Parce que c'est vrai que l'histoire complète du cannabis est très connotée. Et on a du mal à s'en dépêtrer, comme à l'époque où il y avait la prescription de la morphine qui annonçait la mort dans les stratégies médicamenteuses, dans les pathologies cancéreuses. Et là, le cannabis est aussi marqué d'une certaine manière. Et pour s'en sortir, je pense que le désigner différemment, à partir du moment où on aura les deux, trois récepteurs utiles, sera peut-être une manière de sauver cette molécule.
Jet FM, la radio curieuse.
Je reviens sur l'engouement que nous avons pu connaître avec une autre molécule de la douleur neuropathique il y a une quinzaine d'années où les patients, quasiment avec un appui de notre part, en France, nous avions eu beaucoup de mal à avoir une molécule qui s'appelle le pregabalin, le Lyrica, pour ne pas le nommer. Et les premières prescriptions étaient plutôt vers la frontière belge. Et on voit, le constat est assez décevant 15 ans après. Pour un patient soulagé par le Lyrica, il faut à peu près qu'il y ait eu 20 patients qui en aient pris. Donc, il faut relativiser aussi. Et actuellement, on pense que c'est les proportions pour le cannabis.
Donc, il y a un effet, ce que disait Roger tout à l'heure, il y a aussi un effet mercantile, peut-être, de surannonce, d'annonce de surperformance, pas forcément fondée pour le cannabis, qui est le sujet de notre émission.
Je ne sais pas si c'est mercantile. Non, je crois qu'on est dans une... Pareil, l'évoquait, la douleur chronique, un certain nombre de patients passent à autre chose, ont des stratégies non médicamenteuses, et il y aura toujours un certain nombre de personnes qui seront à la recherche de la solution pharmacologique qui les sauve. Donc ça, c'est une partie. Donc il y a l'engouement, il y a une pétition, enfin, des parlementaires demandent que les choses soient accélérées en termes de santé publique, c'est bien, mais il ne faudrait pas imaginer que le cannabis va sauver et va faire disparaître les problèmes de douleur. Mais pour répondre à la question, oui, je pense que c'est une arme utile et nous devons l'avoir.
On est toujours dans Sois sage ou ma douleur, la première émission de cette saison 2020-2021 où les questions de douleur, bien sûr, et de cannabis tout court, ou cannabis médical ou thérapeutique. On va peut-être parler du cadre dans lequel doit être administrée cette molécule quand elle est utile justement à réduire ou contribuer à faire disparaître la douleur. Bruno Rioux, évidemment, il y a un cadre médical, c'est un médecin qui prescrit, c'est un pharmacien qui délivre, on contrôle quoi la posologie, la quantité, de quoi faut-il s'entourer ?
Les prescriptions sont faites globalement en ce qu'on appelle en staff, c'est-à-dire qu'il y a une évaluation de la douleur avec plusieurs professionnels qui ont bien analysé les différents traitements pris auparavant par la patiente ou le patient et amènent à vraiment décrypter le type de douleur du patient et justifier la demande de cannabis. Mmh. Avec une prescription qui est suivie, le patient doit se rendre tous les 12 ou 28 jours, mais je crois que c'est tous les 12 jours au début, et on évalue, car je disais tout à l'heure, le gros problème, c'est que pour un patient où il faudrait une unité, on va dire, de cannabis, pour le voisin, il faudra peut-être 50 unités. Donc, on est avec des grandes variations interindividuelles qui montrent que l'action sur les récepteurs n'est pas encore tout à fait connue.
On va s'arrêter dans quelques secondes. Enfin, s'arrêter, nous, de parler. On va laisser la place à la musique. Roger Robert, dans votre carrière de chirurgien, vous avez eu recours en complément ou d'une façon ou d'une autre au cannabis, ou c'était complètement hors sujet dans votre pratique médicale ?
C'était complètement hors sujet, puisque c'était interdit par la loi, tout simplement. Mais j'avais pleinement conscience que nombreux de mes patients allaient aux Pays-Bas, en Belgique, se procurer de quoi fumer. Le problème est qu'il y a, là-dedans, on parlait d'un petit peu de ces aspects mystiques qui tournent autour de ça. Il ne faut pas oublier que dans nos patients, il y a aussi des êtres humains standards. Et dans l'être humain, il y a des désirs de rêves sans sommeil, comme on disait à propos du haschich. Et il y a de temps en temps des opportunistes qui se disent « Tiens, je vais profiter de ma douleur pour me permettre de fumer des joints qui médicalement me sont recommandés. » Et donc, je n'ai pas ce jugement familial ou de mes proches. J'en profite pour, quoi.
Un effet d'aubaine, quoi.
Oui, c'est sûrement une minorité, mais ça, c'est incontournable. Ensuite, il y a ces patients qui, se mettant à fumer, et Bruno y faisait allusion, ont franchi les doses raisonnables. Et puis, ils fument quoi ? Est-ce que c'est contrôlé ? Est-ce qu'il y a du THC ? Dans quelle proportion là-dedans ? C'est-à-dire celui qui induit des comportements psychiques un peu bizarres. On ne le sait pas vraiment. Il ne faut pas oublier qu'il y a là une notion de dépendance, c'est-à-dire que à partir d'une certaine dose, il y aura moins d'effet, mais une accoutumance qui fait qu'on en prendra un peu plus pour espérer un effet semblable, si toutefois il y a eu un effet.
On peut faire un parallèle avec la morphine là-dessus ?
Moi, je fais un parallèle entre les deux. Pharmacologiquement, c'est bien sûr différent, mais l'approche comportementale est assez semblable, en tout cas. Et effectivement, ces patients-là risquent de s'enterrer dans des prises médicamenteuse d'une drogue avec ses conséquences, c'est-à-dire ses effets secondaires qui ne sont pas minces et dont on parlera peut-être après la pause musicale.
Complètement. Les effets secondaires, justement, et versus les bienfaits attendus. On va s'arrêter quelques minutes. Vous aimez Bob Marley ?
Ça s'impose.
Ça s'impose, évidemment. Alors, c'est Hippolyte hein, qui réalise cette émission, qui nous a dégoté un morceau de musique. C'est Kaya, c'est ça voilà, il me dit oui à travers la vitre. On va l'écouter. Ça va nous permettre de respirer un peu, de continuer ensuite à parcourir ce thème cannabis et douleur. On est toujours sur Jet FM. Avec le professeur Roger Robert, avec le docteur Bruno Rioux. On a parlé, alors, entre autres choses, un peu de l'histoire de ce cannabis médical qui revient un peu au goût du jour. On peut dire également qu'il y a une sorte de pression exprimée par les patients pour utiliser le cannabis et que la douleur chronique, c'est la raison la plus fréquemment exprimée d'ailleurs pour avoir recours à cette molécule, docteur Rioux.
Oui, je pense.
Douleur chronique, douleur qui s'installe dans le temps, qui devient une maladie, hein, je le dis, voilà.
Avec, on estime, les chiffres de 700 000 patients qui pourraient être bénéficiaires de ce traitement. Alors, c'est vrai que la pression des patients est un élément important et l'association des patients, la participation des patients, de leur association à la recherche, je parle pour la douleur, est fondamentale. Dans le cadre de ce qu'on peut nommer l'éducation thérapeutique et qui permet de non pas valoriser une molécule, mais une fois de plus, de bien placer la molécule dans une stratégie thérapeutique. Et je crois que c'est important, surtout les protocoles qui, j'espère, vont venir, que les patients aient une bonne éducation avec un suivi qui permette de pouvoir conclure sur une efficacité relative, dans quelle proportion peut-elle nous aider. Mais on aura besoin, peut-être à différence des études très strictes que nous avons, mais là des études sociologiques quasiment, parce que la douleur chronique est un modèle biopsychosocial.
C'est-à-dire qu'il tient compte de l'environnement, évidemment, de la personne concernée. Hein.
Et donc, et de la qualité de vie, oui. Et d'un certain nombre de critères, et que ces critères doivent être pris en compte pour l'évaluation de ce traitement.
Roger Robert, on va peut-être dire deux mots, voire trois, sur les effets secondaires du cannabis. Vous nous disiez, c'est une molécule qui est une drogue, reconnue d'ailleurs juridiquement comme telle en France encore. Il faut se méfier du cannabis de ce point de vue-là, du point de vue de ses effets secondaires.
Alors, il est sûr, là on parle du cannabis plus que de traitements qui, j'espère, seront extrêmement régulés sur le plan pharmacologique. Mais j'imagine que dans un premier temps, il y a un risque d'appropriation d'une drogue assez mal contrôlée, vendue de façon disparate, comme ça peut l'être actuellement, et utilisée à tort et en surdosage par des patients qui ne connaissent pas bien les faits. Je pourrais faire un parallèle avec le début des contraceptifs oraux. Et je me souviens...
La pilule, voilà.
Avoir vu arriver dans le service, il y a maintenant peut-être une quarantaine d'années, le temps passe vite, des jeunes femmes qui avaient des accidents vasculaires cérébraux, c'est-à-dire dont les artères ou les veines cérébrales se bouchaient par des caillots induits par la pilule et majorés par l'association pilule plus tabac. Et le cannabis est responsable, et c'est prouvé, d'atteinte vasculaire cérébrale. Il y a, par la prise globale de cannabis, et là encore je parle des fumeurs de cannabis et d'une molécule non épurée, si je puis dire, ce qu'on appelle des sténoses intracrâniennes multiples, hein, le CIM, qui sont des infarctus cérébraux. Un infarctus, ça veut dire qu'une partie de l'organe est privée de sang. On a l'infarctus cardiaque et on a l'infarctus cérébral. Et l'infarctus cérébral va entraîner soit une hémiplégie, soit le décès, soit des troubles de la vision, etc. etc. D'autant plus redoutable que ça arrive chez des adultes jeunes. Alors on a beau dire que ce syndrome de rétrécissement vasculaire est réversible chez les usagers du cannabis, c'est réversible jusqu'à preuve absolue du contraire. Et donc, si ça a une action, en tous les cas, il y a des images enregistrées sur des IRM vasculaires où l'on voit très très bien la réduction de calibre d'artères extrêmement importantes du cerveau chez des fumeurs de cannabis. Donc ça, il faut le savoir. La deuxième chose sur laquelle je voudrais mettre en garde le public, c'est les mésusages de ces, c'est-à-dire le mauvais usage de ces médicaments. Par exemple, beaucoup de patients sont atteints de la sclérose en plaques, qui est une maladie qui atteint la substance blanche du système nerveux central et qui va entraîner beaucoup de problèmes, dont, mais pas que, des troubles de vessie. La vessie vient hypercontractile et les patients perdent leurs urines, avec de temps en temps un sphincter qui se serre et à ce moment-là, l'urine ne peut pas s'évacuer, remonte dans les reins et ça mène à l'insuffisance rénale. Donc ce problème-là serait favorablement influencé par le cannabis. Alors d'une part, ça reste à prouver par des études prospectives sur les pressions intravésicales, des gens qui, dans cette indication-là, prennent du cannabis, rien n'est prouvé. Il semble que simplement, ils aient moins de fuite urinaire. Mais on n'a pas vu de grandes séries actuellement prospectives. En médecine, c'est du sérieux, quoi. On ne peut pas faire ça sur la une science, approximation. Hein. Absolument. Il y a des risques d'insuffisance rénale, incontestablement. Mais il ne faudrait pas croire que le cannabis soit, par exemple, la solution pour tous les troubles urinaires. Parce que le commun des mortels ne sait pas ce qu'est une hyperactivité de la vessie ou au contraire une fuite liée, par exemple, à la prostate. Mmh. Ce qui n'a absolument rien à voir. Et Je ne voudrais pas que les prostatiques se mettent tous, et ils sont nombreux, et ils le seront d'autant plus que nous vieillissons, se mettent tous au cannabis. Cannabis et épilepsie, vous savez qu'il y a des médicaments anti-épileptiques qui actuellement sont sur la sellette, puisqu'ils n'ont apporté des désagréments importants. Eh bien, le cannabis et l'épilepsie, il faut l'utiliser dans certaines formes très rares d'épilepsie réfractaires au traitement, qui sont des épilepsies très spécifiques. On est dans le domaine des épileptologues, c'est-à-dire des spécialistes de l'épilepsie. Le cannabis n'est en aucun cas le traitement de l'épilepsie, ça il faut le dire. Et puis enfin, la fin du fin, cannabis et maux de tête, hein, cannabis et céphalée. Alors attention, auditeurs migraineux qui nous écoutez, ne vous mettez pas au cannabis pour soigner votre migraine. Pour l'instant, si vous fumez un bon joint et que vous avez des effets euphorisants, ça ne soulagera pas votre migraine. Peut-être vivrez-vous mieux dans les 2-3 heures qui suivent l'effet de la douleur, mais on est là dans l'effet psychotrope, plutôt THC, que dans l'effet médicamenteux du CBD.
Bruno Rioux, ce que nous disait parmi les éléments, les arguments avancés par le professeur Robert à l'instant, il y avait aussi ce que je percevais d'un trop peu d'études justement sur le cannabis. Est-ce que justement son utilisation médicale repose sur des études trop rares?
Oui, enfin, commence à sortir un petit peu. Et justement, en prenant l'ensemble de ces études, eh bien, on déchante un peu, hein, sur, je crois qu'il y a 500 études quand même au niveau international. Et sur les 500, eh bien, l'effet, on va dire, moyen serait une baisse, je parle pour la douleur, toute étude confondue, une baisse de la douleur de 50%. On ne va pas rechigner, 50% de baisse de l'intensité de la douleur, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais je répète, effectivement, il y a besoin, pathologie par pathologie, donc une fois de plus, quel type de douleur traitons-nous, de quelle manière les études sont faites. Et c'est là, effectivement, où on peut regretter le peu de nombre, parce que 3000 patients, si on le répartit...
Sur l'expérimentation qui va venir, c'est ça, hein.
Si on le répartit en fonction des pathologies, ça va être peu de centres. Et une fois de plus, on a peut-être... enfin, il serait souhaitable qu'il y ait plus de centres douleurs qui participent à cette étude.
Vous connaissez bien ces centres d'évaluation et de traitement de la douleur, Bruno. Oui. Ils ne sont pas concernés par l'étude?
Si,
mais pas assez.
Je pense qu'il y aura une sorte de précaré et que certains centres auront plus accès à ces études que d'autres centres.
Check FM. Check FM. Check FM.
Si l'expérimentation dont on a fait référence à plusieurs reprises aboutissait à l'autorisation du cannabis à usage médical, eh bien, j'ai lu, ça vient de plusieurs sources, que 300 000 à 1 million de personnes pourraient être concernées, avoir recours au cannabis, c'est conséquent. Et puis j'ai demandé, je me suis renseigné pour savoir si je pouvais cultiver, moi, du cannabis. J'ai mal quelque part, j'ai une douleur. Eh bien, j'ai absolument pas le droit. C'est l'article R5132-86 du Code de la Santé publique qui s'applique et maintient un principe d'interdiction de la culture du cannabis chez moi, même si je dis que c'est pour soigner ma migraine. Donc là, je peux me faire passer les bracelets et monter avec des gens en képi dans une estafette. Voilà, c'est plus des estafettes maintenant, mais c'est un petit peu ça. Est-ce qu'on a quand même, est-ce que vous sentez des lignes qui bougent et vous apprêtez dans votre métier à avoir recours de plus en plus en complément, vraisemblablement, au cannabis, parce qu'il y aura des choses qui seront sécurisées, encadrées, Bruno?
Oui, je pense que, en tout cas, dans les centres douleurs, il n'y a aucun problème à ce que nous puissions d'abord participer aux études, repérer les patients et peut-être que dans un premier temps, par territoire, par région, eh bien, il sera peut-être utile de discuter et favoriser l'échange entre les centres et connaître les patients qui sont inclus ou à qui on peut le prescrire et s'engager à rendre des comptes, je dirais, au bout d'un certain temps de prescription. Et au lieu d'attendre les résultats d'un protocole, de pouvoir suivre en permanence ce que nous sommes en train de faire. Et je pense que ça irait dans le sens de la participation des patients.
Dans vos consultations, est-ce que vous sentez qu'il y a un besoin de la part des patients, des patientes, de discuter de cela? Et si oui, comment est-ce que vous refusez de discuter de cela? Est-ce que vous discutez? Est-ce que de ne pas discuter, ce serait altérer vraiment gravement la qualité de la relation médecin-patient? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire l'un et l'autre?
Il n'y a absolument aucun tabou. À partir du moment où il y a une demande, il faut expliquer où on en est avec le cannabis. Mais je dirais, ces questions, les patients douloureux nous les posent pour toute autre alternative thérapeutique actuellement. Et parfois, on est amené à répondre à des questions avec des spécialités. Je ne sais pas d'où elles peuvent venir, mais parfois, c'est des mélanges de certaines thérapies, on va dire, orientales, mélangées à la sauce de je ne sais pas quoi. Mais il faut savoir qu'actuellement, il y a quand même un commerce très florissant qui est basé sur la souffrance des gens et sur la volonté d'avoir un remède miracle. Il y a des molécules, soi-disant, pour la fibromyalgie, je ne les nommerai pas, mais où les gens déboursent beaucoup d'argent tous les mois pour rechercher quelque chose qui les soulage. Donc, on répond, bien entendu, et on les met en garde. C'est-à-dire que leur crédulité qui est liée parfois à cette douleur les rend extrêmement vulnérables et fragiles par rapport à l'esprit mercantile.
Il ne faut pas refuser le débat avec le patient, professeur Roger Robert.
Non, c'est hors de question. Le propre de la médecine est d'être un métier humain, donc relationnel. Le médecin doit être un accompagnant pour son patient. Les douleurs chroniques que Bruno et moi connaissons bien, on les voit encore ensemble de temps à autre, sont demandeurs évidemment de solutions puisqu'une douleur chronique est insupportable. On parlait tout à l'heure d'une douleur neuropathique, c'est-à-dire par atteinte du système nerveux lui-même. Il n'y a pas de traitement absolu et l'aide évidemment souhaitée par les patients et apportée par le cannabis vient très rapidement sur le tapis du discours. Nous ne sommes pas les complices des patients. Et en aucun cas, il faut se considérer comme autorisant la prise d'un produit qui actuellement, que la morale ou la justice réprouve. Nous ne sommes pas leurs complices. On est là pour les accompagner et pour leur servir de tuteur. De tuteur avisé d'orientation dans le droit chemin médical. Il n'est pas question de morale là-dedans. Mais il ne faut pas non plus qu'ils subissent les pressions des chants des sirènes. Je parlais de certaines publicités qui sont faites quand je disais tout à l'heure, évidemment, que l'aspect mercantile, il vient de certain nombre de structures qui disent « chic, si on peut placer nos chants, ça va être très bien ». Tout à l'heure, vous parliez effectivement de cultiver le cannabis chez soi. Pourquoi pas si c'est à visée médicale? Mais on a du mal à imaginer que ce soit structuré comme tel et limité à ça, quoi. À partir de ce moment-là, c'est un non-sens. Donc nous, notre rôle, c'est de protéger. Accepter la discussion, oui. Accompagner le patient, oui. Mais suivre des études de prospective médicale de haute qualité, multicentrique, oui.
Encore oui, Bruno.
Je me permets de faire un parallèle. On l'a commencé avec la morphine et le drame en termes de santé publique que l'oxycodone peut être aux États-Unis particulièrement. Et on voit qu'une consommation de morphinique en dehors de toute indication ou cadrage amène à des catastrophes sanitaires. Je ne veux pas être oiseau de mauvais augure et je souhaite qu'il y ait le plus de molécules à notre disposition pour aider les patients. Mais je pense que nous avons quand même suffisamment d'éléments pour raison garder que nous avons affaire à un médicament qui va être utile, mais prudence. D'un côté, nous ne devons pas avoir une prescription trop cadré comme le fut la morphine avant 1981, ce qui était un scandale. Et l'autre extrême, c'est quasiment une vente libre des morphiniques qui a amené à de l'automédication, possible aux États-Unis, beaucoup moins en France, mais on voit bien que ce désir de consommation pour trouver une solution, alors que la solution n'est pas toujours médicamenteuse, doit vraiment être le rôle des centres de la douleur et que nos collègues médecins généralistes ont pu partager ce genre d'expérience.
On est toujours dans Soissage au ma douleur, émission dédiée à la douleur, douleur et cannabis aujourd'hui avec le docteur Bruno Rilloux qui s'exprime à l'instant avec le professeur Roger Robert. Moi j'avais une dernière question avant que, grâce à Bruno, on focalise, on fasse le zoom sur certaines parutions et vous nous avez préparé ça aux petits oignons, Bruno. Est-ce qu'il y a des contre-indications absolues à consommer du cannabis dans certaines situations médicales? Il y a des interdits absolus, des maladies, des choses comme ça qui, où là, le cannabis n'est absolument pas approprié et peut être dangereux.
Je ne répondrai pas formellement. Nous parlons du cannabis médical. Actuellement, il y a quand même peu d'études qui peuvent nous faire amener à des contre-indications. Je pense que les contre-indications, elles ressemblent beaucoup aux contre-indications de la morphine et ça dépend beaucoup de l'indication. C'est-à-dire, nous sommes dans une situation de soins palliatifs, les contre-indications vont être différentes que si nous prescrivons du cannabis pour un jeune adolescent qui a une douleur de paraplégie, par exemple, et nous serons beaucoup plus attentifs. Et là aussi, on voit que tout va être autour de l'évaluation, tout va être autour du suivi et qu'il y a des situations où, à mon avis, il peut y avoir des contre-indications, mais je ne vois pas de contre-indications absolues.
Évaluation, c'est un maître mot dans votre bouche, Bruno. Évaluation, éducation également et modèle biopsychosocial. C'est vrai que vous le rappelez, mais comme dirait le professeur Robert, répéter, c'est enseigner et inversement. Sur cette question des contre-indications, Roger, quelques mots ou...
Non, je pense que tout dépend des doses aussi. Tout dépend des doses, tout dépend de l'activité des patients. Si les doses sont importantes, on sait que les risques de problèmes cognitifs, d'attention, de mémoire, etc. peuvent retentir sur des activités sociales quotidiennes. Je pense à la conduite automobile, mais je pense aussi au terrain psychologique fragile. Dans certains articles, on dit que la surconsommation peut être un terrain favorable à l'apparition de psychose. J'allais dire si qu'il y a déjà un terrain qui est pressenti pour être favorable à un tel épanouissement pathologique, peut-être qu'il faut réserver là les indications.
Merci pour cet éclairage sur ce thème douleur et cannabis, Bruno et Roger. Et je renvoie à l'excellent site de cette association internationale pour l'étude de la douleur, International Association for the Study of Pain, recommandé également par vous, Bruno Rioux. Bruno, justement, je vous donne la parole. Vous allez nous faire un éclairage sur quelques revues de presse, en quelque sorte, sur des parutions récentes pour la plupart, j'imagine. Et on va commencer avec une fondation pour la recherche contre le cancer qui a fait paraître un article, je crois.
Oui, une brochure à destination des patients. Ça s'appelle « Apaiser les douleurs du cancer ». Et c'est une brochure d'une quinzaine de pages et qui reprend certaines choses que nous pouvons dire à l'antenne et qui amène à s'auto-évaluer, je dirais, et à bien comprendre dans le parcours de la maladie cancéreuse la place de la douleur. La douleur reste présente pour un patient sur deux actuellement, et avec parfois des difficultés de traitement. Et peut-être que là aussi, le cannabis pourrait être utile, encore faut-il, une fois de plus, bien évaluer ce qui peut... Et il y a un chapitre sur la souffrance physique, la souffrance morale, la manière dont certains anti-douleurs, donc anti-excès de douleur, peuvent agir, mais aussi d'avoir affaire à une équipe en cancérologie et que parfois la solution n'est pas médicamenteuse, mais peut être chirurgicale, peut être une radiothérapie, peut être avec différentes... techniques que nous avons et que tout centre de cancérologie doit pouvoir évaluer. Et à côté, eh bien, il y a aussi ce que les patients connaissent et apprécient énormément, c'est tout l'aspect que nous disons non médicamenteux et qui doit être pris en charge eh bien, le plus rapidement possible par des gens formés qui font partie d'une équipe que nous appelons les équipes de soins de support. Et tous ces aspects-là bien, sont bien décrits à travers cette brochure, donc de la collection Mieux Vivre que la Fondation pour la recherche sur le cancer a édité.
Et qu'on peut se procurer dans les cabinets médicaux, dans le vôtre par exemple.
Actuellement, oui, on nous en a délivré un certain nombre, mais directement aussi, je pense, sur le site de l'ARC, avant de les avoir, les commander. Mais je conseille vraiment la lecture pour les patients et les familles qui accompagnent leurs patients.
Il faut mettre des mots sur la douleur, il ne faut pas être atteint de l'excithymie. Je fais le malin, mais il y a une heure, je ne connaissais pas ce terme. C'est quoi la l'excithymie, Bruno?
C'est avoir peu de mots pour exprimer une émotion et d'être en difficulté. Et on se rend compte que eh bien, ce sont des patients qui évaluent ou vivent leur douleur d'une manière beaucoup plus intense. Ne pas l'exprimer, pas trouver les mots, les qualificatifs, vont appauvrir la rencontre entre le soignant et le patient. Et le patient va rester avec quelque chose qu'il aura du mal à définir. Et moins on définit quelque chose, plus, je dirais, l'ennemi est présent et la souffrance est grande, car on a du mal à le projeter, à le créer ce qu'on appelle des métaphores qui permettent au patient de s'extraire ou d'extraire la douleur.
Vous êtes en train de me dire que mécaniquement, si on est pauvre en mots, on va ressentir plus violemment, plus durement la douleur que si on a un vocabulaire choisi et riche.
Je pense par expérience, oui, que si les mots ne sont pas là, c'est le corps qui prend.
Vous allez nous parler de gériatrie, de notion de stress post-traumatique, justement à l'appui d'une nouvelle parution, Bruno ?
Une notion, en tout cas, bon, le stress post-traumatique est quelque chose de connu, sur lequel beaucoup d'équipes de psychothérapeutes travaillent. Et dans le monde de la douleur, c'est une notion extrêmement importante et que ce diagnostic de stress post-traumatique, en étant prudent, là aussi, c'est un concept quasiment très à la mode, ou en tout cas très médiatique. Toujours est-il que durant le confinement, où il y avait, même si on avait les mots pour dire son quotidien, il y avait peu de monde pour les écouter, donc peut-être une alexithymie relative, et on s'est rendu compte que les personnes âgées... il y avait une résurgence de certains traumatismes de la vie de ces personnes et qui créent véritablement des facteurs de vulnérabilité. C'est-à-dire que peut-être qu'on fera une émission sur le stress post-traumatique avec des collègues psychothérapeutes, mais le ou la patiente se retrouve à un raisonnement en boucle et revit ce stress post-traumatique et n'a plus de prise sur le présent, par exemple.
Et un traumatisme qui peut être psychologique ou physique, les deux. Hein.
Oui, mais surtout qui est vécu comme étant une dissociation. C'est-à-dire que en général, c'est des situations de guerre, d'attentats, mais aussi de violences conjugales, de violences familiales, routières, etc. Et qu'il y a une dissociation. On se dissocie pour se protéger. Et normalement, on se réassocie. Et cette réassociation peut être extrêmement fragile et peut se révéler à l'occasion d'autre chose. En l'occurrence, le confinement. Donc, cette recherche... parce que c'est un facteur de vulnérabilité chez nos aînés, doit vraiment faire partie des évaluations pour nos collègues gériatres.
Dernière chose, je crois, autour de la fibromyalgie, Bruno, pour terminer cette revue de parution, de presse, d'articles, et même de brochures. Vous parlez de cette brochure De la Fondation de la Recherche pour le Cancer, mais dernier élément de votre vue.
Oui, c'est une étude, alors on appelle ça des méta-analyses, c'est-à-dire qu'on regroupe plusieurs études qui ont œuvré dans le même sens, sur à peu près les mêmes thèmes. Et là, c'est donc la fibromyalgie et la prise en charge non médicamenteuse, non pharmacologique. Et cette étude correspond à 78 études, pardon, et on a un total à peu près de 6000 patients. Et on a regardé les grandes propositions thérapeutiques non médicamenteuses, que ce soit les exercices physiques, tout simplement, la balnéothérapie, l'approche multidisciplinaire, ce qu'on évoque assez souvent avec psychologues, centre social, différentes spécialités, entre autres les psychothérapeutes. Et on a évalué la qualité de vie, l'intensité de la douleur, la fatigue, le sommeil et la dépression. Et on voit que, eh bien, toutes ces techniques que je viens de citer ont un effet bénéfique et que peut-être l'approche multidisciplinaire, qui est quand même aussi un des fondements des centres de douleur, aurait amélioré, baisserait l'intensité de la douleur, améliorerait le sommeil et favoriserait une baisse de la dépression. Et la balnéothérapie aurait plus un effet sur la fatigue, par exemple. Et les différents types d'exercices physiques, que ce soit les étirements, mais le yoga, le tai chi chuan, eh bien, auraient des résultats qui seraient plus efficaces sur la qualité de vie, sur la douleur. Tout ça pour dire qu'on a des résultats intéressants et on arrive à, je dirais, mettre les curseurs et que chaque activité, globalement, commence à avoir des spécificités. Et plus sur le sommeil, plus sur la dépression, plus sur la qualité de vie. Et que, ben, on revient une fois de plus à l'intérêt de bien évaluer les choses, de vraiment prendre son temps. Et que peut-être qu'il faut commencer son activité par de la marche avec son chien, pour après s'inscrire au tai chi chuan, au yoga ou la balnéo. Mais peut-être que l'ordre dans lequel on va faire les choses va être importante. Et que de temps en temps, on a envie de proposer tout ça aux patients, mais sont-ils au bon endroit, au bon moment? Sont-ils... Peut-être que c'est après qu'il faut proposer les choses. Donc l'accompagnement, donc le suivi est fondamental.
Merci beaucoup Bruno pour cet éclairage et cette revue de presse, de parution et d'articles. Roger, vous êtes philosophe, l'émission du mois prochain, elle est pour vous, douleur et philosophie, ça vous inspire a priori?
Oui, ça m'inspire beaucoup, mais on aura besoin de l'appui d'un vrai philosophe.
Oui, et Bruno est philosophe aussi, bien sûr. Nous philosophons tous, c'est dans notre nature. Merci infiniment, messieurs, à bientôt, et puis je remercie vivement, chaleureusement, celui qui a réalisé cette émission, j'ai nommé Hippolyte Gohaut. À bientôt.
À bientôt.
Et ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt?
Aïe!
Sois sage, ô ma douleur. Une émission proposée par le professeur Robert, neurochirurgien,
aïe,
le docteur Riou, anesthésiste, réanimateur et algologue,
aïe,
et Pascal Massiot, journaliste.
Aïe!
La douleur sous toutes ses coutures, sous toutes ses sutures.
La douleur, c'est une expérience qui est à la fois sensitive, sensorielle, mais c'est aussi une expérience émotionnelle.
Témoignages, décryptages, reportages, chaque deuxième mercredi du mois à 18h sur Jet FM. Sois sage, ô ma douleur.
Ma douleur, donne-moi la main. Viens par ici.